Chapitre 2 Versets 3 à 11 Les traits caractéristiques de la vie divine. Les versets 1 et 2 ont été vus avec la première partie de l'Épître qui présente la vie éternelle telle qu'elle a été manifestée en perfection en Christ sur la terre. Cette vie communiquée aux croyants permet à celui qui la possède d'avoir communion avec les personnes divines et de goûter ainsi une plénitude de joie. Dans cette deuxième partie de l'Épître, l'apôtre place devant nous les deux grands traits caractéristiques de la vie divine dans sa manifestation ici-bas, l'obéissance à Dieu et l'amour pour nos frères. La réalisation de ces deux dispositions, ou l'absence de leur manifestation, démontre si la profession de connaître Christ, verset 4, de demeurer en lui, verset 6, et de marcher dans la lumière, verset 9, est une réalité ou non. Versets 3 à 6 Citation de l'Écriture Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole, en lui, l'amour de Dieu est véritablement consommé. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit marcher en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Fin de citation. Être dans la lumière de la pleine révélation de Dieu et avoir communion avec Dieu, c'est le connaître. La vraie connaissance de Dieu conduira à reconnaître qu'il est souverain et que nous sommes ses créatures, que, par conséquent, la soumission lui est due. Nous sommes dépendants de Dieu et cette dépendance est traduite par la soumission ou l'obéissance. Si nous disons que nous connaissons Dieu et que nous marchions néanmoins dans la désobéissance à sa volonté, notre profession est mensongère, la vérité n'est pas en nous. En outre, celui qui garde sa parole, en lui l'amour de Dieu est véritablement consommé. Le Seigneur Jésus, comme homme, a marché dans une soumission et une obéissance parfaite à la volonté du Père. La volonté de son Père était le mobile aussi bien que la règle de chacun de ses actes et de chacune de ses paroles. Il pouvait dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent » Jean 8, verset 29. Il en résultait qu'il connaissait parfaitement l'amour du Père et qu'il en jouissait constamment. Ainsi, le Seigneur peut dire à ses disciples « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Jean 15, verset 10. Si donc nous professons demeurer en lui et jouir de la communion avec le Père, nous devons alors marcher comme Christ a marché, faisant ainsi les expériences bénies de l'amour du Père dont il jouissait. Nous ne pouvons pas, tant que nous sommes ici-bas, être ce qu'il était, car il était sans péché. Mais notre privilège consiste à marcher comme lui a marché. Il n'a pas cherché à se plaire à lui-même, mais il faisait toujours les choses qui plaisaient au Père. Nous avons été élus pour l'obéissance, comme Christ a obéi, et pour marcher et plaire à Dieu. 1 Pierre 1, verset 2, 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Versets 7 à 11 Citation de l'Écriture Bien-aimés, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres s'en vont et que la vraie lumière luit déjà. Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Fin de citation. Ce que l'apôtre écrit aux croyants n'est pas un commandement nouveau, mais la parole qu'ils avaient entendue dès le commencement. Car il parle de la vie, caractérisée par l'obéissance et l'amour, qui a été manifestée dans une perfection absolue en Christ. Quiconque penserait pouvoir écrire quelque chose de nouveau au sujet de cette vie prétendrait, bien à tort, donner de la lumière au-delà de celle qui a déjà été parfaitement manifestée en Christ. La chose nouvelle, en fait, c'est que la vie qui a été exprimée en perfection en Christ a été communiquée aux croyants, de sorte qu'il peut être dit « ce qui est vrai en lui est en vous ». La possibilité de vivre cette vie dans la communion avec les personnes divines résulte du fait que Dieu a été pleinement révélé dans le Fils. Il est ainsi venu dans la lumière. Dieu ayant été révélé, les ténèbres et l'ignorance de Dieu qui caractérisaient le monde s'en vont. Lorsque le soleil de justice se lèvera, le monde entier viendra dans la lumière. Tous connaîtront le Seigneur. Alors les ténèbres ne seront plus. Mais maintenant déjà, les ténèbres s'en vont, lorsque des hommes sortent du judaïsme et du paganisme et viennent dans la lumière de la révélation de Dieu dans le christianisme. L'apôtre a mentionné l'obéissance comme l'un des deux grands tests pour savoir si la profession de connaître Dieu, donc d'être dans la lumière, est bien réelle. Il parle maintenant de l'amour comme d'un second trait qui caractérisera ceux qui sont véritablement dans la lumière. Il s'ensuit, d'une part, que celui qui est son frère est dans les ténèbres ou l'ignorance de Dieu, malgré toute la profession qu'il puisse faire d'avoir la vie et d'être dans la lumière. D'autre part, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et n'agira pas de manière à faire broncher son frère. Un juif faisait profession de connaître Dieu et ainsi d'être dans la lumière, et pourtant il haïssait et persécutait les chrétiens, prouvant qu'il n'était pas dans la lumière de Dieu révélée en Christ. Un tel homme est dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui est dans un état ténébreux, comme cela pourrait être le cas d'un vrai chrétien qui, se trouvant sous un nuage, entretient des pensées amères contre son frère. Mais cela suppose quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est-à-dire dans un système dans lequel il n'a pas de révélation de Dieu. Les ténèbres, c'est l'absence de la révélation de Dieu. C'est une expression employée en contraste avec la vraie lumière qui est la révélation de Dieu. Nous avons donc ici les grands traits caractéristiques de la vie éternelle, l'obéissance et l'amour. En outre, le passage montre clairement que si nous possédons cette vie et vivons cette vie, premièrement, nous serons amenés à la connaissance de Dieu le Père, nous le connaîtrons, versets 3 et 4. Deuxièmement, connaissant le Père, nous marcherons dans l'obéissance à sa volonté, versets 3 et 4. Troisièmement, gardant ses commandements, nous jouirons pleinement de son amour, verset 5. Quatrièmement, demeurant ainsi dans l'obéissance et l'amour, nous marcherons comme Christ a marché, verset 6. Cinquièmement, marchant comme Christ a marché, nous nous aimerons les uns les autres. Verset 10. Versets 12 à 27. Croissance dans la vie divine. L'apôtre a parlé de la vie éternelle manifestée en perfection en Christ. Il a aussi placé devant nous les deux grands traits caractéristiques qui distingueront ceux qui possèdent la vie pendant qu'ils traversent ce monde, l'obéissance et l'amour. Dans la partie suivante de l'épître, l'apôtre montre que, bien que tous les croyants possèdent la vie, il y a toutefois une croissance dans la vie divine. Il considère les croyants comme formant la famille de Dieu et il se sert des relations de la vie ordinaire, père, jeunes gens, petits-enfants, pour présenter différents niveaux de croissance spirituelle dans la compréhension de la vérité et dans l'expérience chrétienne. Il n'emploie pas ces termes pour présenter des niveaux de la vie naturelle, mais bien des distinctions dans le développement spirituel. une personne convertie à un âge avancé pourrait n'être spirituellement qu'un petit enfant, tandis qu'un croyant relativement jeune pourrait manifester les caractères spirituels d'un père. L'apôtre présente, en outre, les pièges particuliers auxquels les croyants sont exposés à ces différents degrés de maturité spirituelle. Verset 12. Citation de l'Écriture. Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Fin de citation. Avant d'aborder les différents niveaux de croissance spirituelle, l'apôtre parle de la bénédiction qui est commune à toute la famille de Dieu. Il s'adresse à tous les croyants comme étant des enfants. C'est là un terme de tendresse. Il établit ensuite que le pardon des péchés est la grande bénédiction qui caractérise chaque membre de la famille de Dieu. Sans cette bénédiction, il ne ferait pas partie de cette famille. L'apôtre n'écrit pas à des pécheurs afin qu'ils soient pardonnés, mais à des croyants parce qu'ils sont pardonnés. De plus, comme il va parler d'expérience et de progrès spirituel, il rappelle aux croyants qu'ils sont pardonnés par son nom. Comme croyants, il nous rappelle que nous ne sommes pas pardonnés en vertu de quelque mérite humain ou de quelque expérience aussi réelle soit-elle, car alors ce serait par nous. Nous sommes pardonnés à cause de la satisfaction que Dieu a trouvée en Christ et en son œuvre, par son nom. Le Seigneur lui-même avait dit à ses disciples que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations. Luc 24, verset 47. Pierre, en exécutant le mandat confié par le Seigneur, proclame aux gentils que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Acte 10, verset 43. Ainsi, le pardon des péchés n'est pas quelque chose que l'on doit atteindre. Il nous est annoncé par le Seigneur Jésus et est reçu par la foi en Christ. Acte 13, versets 38 et 39. Verset 13. Citation de l'Écriture. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Fin de citation. Ayant établi ce qui est commun à la famille de Dieu tout entière, l'apôtre distingue trois niveaux de croissance spirituelle, sous les termes de père, jeunes gens et petits enfants. Il n'écrit pas aux vieillards, jeunes gens et petits enfants. Vieillard ne saurait être une image appropriée pour présenter le niveau le plus élevé de développement spirituel, car le mot implique la faiblesse et le déclin. Il se sert du terme « père » qui évoque la maturité et l'expérience acquise. Les principaux traits de chacune de ces classes sont d'abord énoncés. Les pères connaissent Christ, celui qui est dès le commencement. Les jeunes gens sont caractérisés comme ayant vaincu le méchant. Les petits-enfants connaissent le Père. Dans le cours de la croissance naturelle, nous pouvons perdre, dans une grande mesure, les caractéristiques d'un stade antérieur. Il n'en est pas ainsi de la croissance spirituelle. Les jeunes gens ne cessent pas de connaître le Père parce qu'ils ont appris à vaincre le méchant. Les pères ne cessent pas de vaincre le méchant parce qu'ils ont appris à connaître celui qui est dès le commencement. En écrivant à chacune des classes, l'apôtre se sert des mots « parce que vous », montrant qu'il y avait un point commun entre lui-même et chacune des classes. Cela revenait à dire « Je vous écris parce que vous jouissez de ce dont je jouis ». Les trois niveaux recouvrent tous les états spirituels du christianisme pratique. Celui qui posséderait tous ces traits serait un chrétien parvenu à son plein développement. Versets 14 à 17. Citation de l'Écriture. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Fin de citation. Après avoir donné les principales caractéristiques de chaque niveau de la croissance chrétienne, l'apôtre en revient à chacun d'eux et présente, dans le cas des jeunes gens et des petits-enfants, les dangers spéciaux qui les guettent. Quant au Père, il n'a rien de nouveau à ajouter. Il répète « Vous connaissez celui qui est dès le commencement. » On pourrait poser la question « Est-ce que les jeunes gens et les petits-enfants ne connaissent pas Christ ?» Certainement, ils connaissent Christ comme leur Sauveur. Mais connaître Christ comme celui qui est dès le commencement implique que nous ne le connaissons pas seulement comme celui qui nous a sauvés de nos péchés et du jugement, mais que notre maturité spirituelle nous a amenés à discerner en Christ celui qui est dès le commencement d'un monde de bénédiction entièrement nouveau, selon les conseils du cœur du Père. Dès le commencement, à la force de « dès l'origine ». Connaître celui qui est dès le commencement, c'est saisir qu'avec la venue de Christ, il y a le commencement d'une création entièrement nouvelle dans laquelle les choses vieilles seront à jamais passées. Ceux qui connaissent Christ ainsi ne nourriront plus l'espoir de réformer l'homme ou d'améliorer le monde. Ils regarderont au-delà de ce monde et auront leurs pensées fixées sur les choses qui sont en haut. Tous leurs espoirs seront concentrés en Christ. Ils sont parvenus à un niveau de croissance où Christ est tout et en tous. Si les petits-enfants sont caractérisés par la confiance dans l'amour du Père, les jeunes gens ne perdent pas cette confiance, mais, en plus, ils sont caractérisés par la force spirituelle pour vaincre les assauts de l'ennemi. Dans la vie naturelle, les jeunes gens sont confrontés au monde et doivent soutenir les luttes de la vie. De même, dans la vie spirituelle, les jeunes gens sont ces croyants rendus capables de vaincre le méchant par la vigueur spirituelle qui les distingue. La source de leur force pour vaincre est la parole de Dieu. Ils vainquent l'ennemi, non pas par la raison humaine ou les capacités naturelles, ni par la sagesse enseignée par les hommes, mais par la parole de Dieu. Et, de plus, par la parole de Dieu demeurant en eux. Ce n'est pas simplement qu'ils saisissent intellectuellement la parole de Dieu, ou qu'ils en ont meublé leur mémoire, mais elles forment leurs pensées, s'emparent de leurs affections et dirigent leurs actions. Pour eux, la parole n'est pas un ensemble de dogmes auxquels on peut souscrire d'une manière superficielle ou temporaire, sous l'influence d'un docteur. Elle est implantée dans le cœur, comme étant la parole de Dieu, et, par conséquent, elle est gardée dans la foi en Dieu. Quelqu'un a dit « Le vrai secret de la capacité de se servir de la parole de Dieu contre le diable, c'est que la parole de Dieu garde votre propre âme. » Si la parole de Dieu demeure en nous, elle deviendra notre guide en toutes circonstances et notre arme dans chaque conflit. Certains ont pris la conscience comme guide et ont été ainsi entraînés, avec la plus grande sincérité, dans les actes les plus antichrétiens, même jusqu'à persécuter les saints de Dieu, comme Saul de Tarse. Strictement, la conscience n'est pas un guide, mais un témoin. Elle rend témoignage en proportion de la lumière que nous avons. La vraie lumière et le seul guide, c'est la parole de Dieu. Et si nous avons cette lumière, la conscience témoignera si notre marche est selon la lumière. La parole de Dieu devient ainsi le critère déterminant pour toute chose. Parfois, nous pouvons tester les choses en fonction de leur utilité apparente ou de leur succès apparent. Nous ne découvrirons le vrai caractère d'une chose qu'en la soumettant à la lumière de la parole de Dieu. Agir de la sorte, c'est véritablement être soumis à Dieu, et le diable n'a aucun pouvoir contre une personne soumise. Nous vainquons ainsi le méchant. Nous avons l'exemple le plus parfait de cette victoire dans notre Seigneur. Le diable a cherché à le faire sortir de la place de dépendance de Dieu, de consécration à Dieu et de confiance en Dieu. Le Seigneur a été victorieux en toutes circonstances, non pas en faisant usage de sa puissance divine, mais comme homme parfait, dépendant, en se servant de la parole de Dieu. Dans chacune des tentations, le Seigneur a vaincu en disant « Il est écrit ». En outre, la parole dont il se servait était la parole qu'il gardait. Il est inutile d'essayer de résister aux tentations du diable par une parole à laquelle nous n'obéissons pas nous-mêmes. Si nos pensées et nos paroles et nos voix sont gouvernées par la parole, nous pouvons nous en servir efficacement contre le diable et vaincre. Les jeunes gens peuvent connaître les conflits avec le diable et sont en contact avec le monde. Comme la chair est encore en nous, le monde est un danger très réel. Nous sommes envoyés dans le monde comme témoins pour Christ, mais nous ne sommes pas du monde. Aussi, nous sommes avertis de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En outre, il nous est rappelé que, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous pouvons, hélas, être tentés par lui, ou, dans un moment d'inattention, être vaincus par lui, mais la question déterminante est celle-ci, l'aimons-nous ? Une question solennelle pour tous ceux qui professent appartenir à la famille de Dieu et qui, néanmoins, paraissent être plus à l'aise en compagnie du monde que parmi les enfants de Dieu. L'apôtre ne nous laisse aucun doute quant au caractère du monde dont il parle. Il ne se réfère pas au monde physique de la nature, mais à ce grand système établi par l'homme déchu, caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il a été remarqué que ces trois principes ont tous été introduits avec la chute de l'homme. Le diable a tenté Ève par la question « Quoi ? Dieu a dit ?» Si la parole de Dieu avait demeuré dans son cœur, elle aurait pu s'en servir pour vaincre le diable. Hélas, ce n'était pas elle qui gouvernait ses pensées. Aussi en la citant, ou en la citant de façon déformée, Ève fut non seulement sans puissance pour vaincre, mais elle tomba dans le piège des principes du monde. Elle vit que l'arbre était bon à manger, et fut entraînée par la convoitise de la chair. De plus, elle vit qu'il était un plaisir pour les yeux, et elle fut attirée par la convoitise des yeux. Enfin, elle vit que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et l'orgueil de la vie, qui désire ardemment la connaissance, fut éveillé. Étant séduit par les principes du monde, Adam désobéit à Dieu et fut chassé du jardin. Le monde, donc, est un vaste système organisé par l'homme déchu pour assouvir les différentes convoitises de la chair, pour satisfaire l'œil et répondre aux formes variées de l'orgueil. Dans ce monde, il n'y a rien qui soit du Père, et il n'y a pas d'amour pour le Père. Aux croyants, le Père a ouvert un autre monde, non pas caractérisé par la convoitise qui cherche sa propre satisfaction, mais par l'amour qui cherche le bien de son objet. Non pas un monde qui répond aux désirs des yeux, mais où Christ est le seul objet de contemplation. Nous voyons Jésus. Ce n'est pas un monde conduit par l'orgueil de l'homme, qui se glorifie de sa propre sagesse, mais c'en est un qui est caractérisé par l'humilité qui se plaît à s'asseoir aux pieds de Jésus pour apprendre. En outre, le monde de l'homme est une scène qui passe, qui n'est que pour un temps. Malgré tout l'attrait que son aspect extérieur peut offrir en certaines occasions, il est dominé par le péché et l'ombre de la mort plane sur lui. Nous avons déjà remarqué que les ténèbres ou l'ignorance de Dieu s'en vont. Nous apprenons maintenant que le monde qui demeure dans les ténèbres s'en va aussi. En contraste, ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Ils appartiennent à un domaine dans lequel l'ombre de la mort ne viendra jamais. Voyons maintenant les petits-enfants. Le verset 13 nous apprend que le premier caractère des petits-enfants est qu'ils connaissent le Père. Au cours de leur croissance spirituelle, ils seront entraînés dans des luttes et seront appelés, comme jeunes gens, à soutenir le bon combat de la foi. Ils auront à sortir pour se battre pour le Seigneur, mais ils commencent dans le cercle familial. Dans ce bienheureux cercle d'amour, il se peut qu'ils n'éprouvent pas beaucoup la puissance de l'ennemi et ne soient pas très conscients du conflit qui est devant eux, mais ils découvrent l'amour du cœur du Père et le soutien de la main du Père. Non seulement ils savent qu'ils sont enfants et que Dieu est leur Père, mais ils connaissent le Père avec lequel ils sont en relation filiale. Ils ne savent peut-être pas grand-chose des profondeurs de Satan, des pièges du monde ou de la méchanceté de leur propre cœur, mais ils connaissent le cœur du Père. Autrefois, ils ignoraient tout du cœur du Père et ne se souciaient aucunement de la volonté du Seigneur. Mais comme pécheurs, ils ont été amenés au Sauveur et, par la foi dans le Christ Jésus, ils sont entrés dans la famille de Dieu, selon ce que nous lisons en Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été versé dans leur cœur, et ils ont pu lever les yeux et dire « Abba, Père ». Ils réalisent que le Père les aime d'un amour qui ne se lasse jamais et les comble de soins qui ne cessent jamais. Versets 18 et 19. Citation de l'Écriture. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Fin de citation. Du fait de leur inexpérience, les petits-enfants sont plus particulièrement en danger d'être séduits. Aussi l'apôtre les met-il en garde contre les séducteurs antichrétiens. Il nous est dit que c'est la dernière heure. 19 siècles se sont écoulés depuis que ces paroles ont été écrites. Nous pouvons en conclure que l'apôtre ne se réfère pas à la dernière heure quant au temps, c'est plutôt la dernière heure quant à son caractère. Nous savons que la dernière heure avant que le jugement tombe sur une chrétienté apostate sera caractérisée par l'apparition de l'Antichrist. Mais des faux docteurs, opposés au christianisme, s'étaient déjà levés au jour de l'apôtre, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ces docteurs antichrétiens seraient un piège particulier pour les croyants du fait qu'ils se lèveraient parmi eux et qu'ils abandonneraient ensuite la profession chrétienne. Versets 20 à 25. Citation de l'Écriture. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui nous a promise, la vie éternelle. Fin de citation. Pour permettre aux croyants d'échapper à leur enseignement fallacieux, il nous est d'abord rappelé que nous avons le Saint-Esprit, l'onction, et que par cela nous sommes capables de juger de toutes choses. Par nous-mêmes, nous ne connaissons rien, mais ayant l'Esprit, nous avons la capacité de connaître toutes choses. Deuxièmement, nous avons la vérité. L'Esprit ne nous éclaire pas par quelque imagination intérieure. Il se sert de la vérité et nous rend ainsi capables de discerner l'erreur. Nous ne détectons pas le mensonge en étant occupés du mal, mais en connaissant la vérité. Notre affaire, c'est d'être simple quant au mal et sage quant au bien. Troisièmement, ayant l'Esprit et la vérité, nous apprenons aussi que la personne de Christ est la pierre de touche de tout système religieux. Nous pouvons être trompés si nous jugeons les hommes d'après les termes chrétiens qu'ils emploient peut-être et d'après les œuvres qu'ils peuvent poursuivre. Le vrai critère est quelle est leur position quant à la vérité au sujet de la personne de Christ. Il s'avérera que tout faux système nie, sous une forme ou sous une autre, la vérité concernant sa personne. Il y a toutefois deux formes principales d'erreur et d'opposition à la vérité. L'une d'elles, particulièrement répandue parmi les Juifs, nie que Jésus est le Christ, le Messie qui doit venir. L'autre forme d'erreur, qui s'élève dans la profession chrétienne, nie la vérité du Père et du Fils. Lorsque l'Antichrist apparaîtra, il unira le mensonge des Juifs à celui de la profession chrétienne et niera tout à la fois que Jésus est le Messie et qu'il est une personne divine. Aujourd'hui, tout faux système qui a surgi dans la chrétienté est condamné par la négation de la vérité quant à la personne de Christ comme Fils, négation qui conduit obligatoirement à celle de la vérité quant au Père. Notre sauvegarde contre toute erreur quant à la personne de Christ, c'est de demeurer dans ce que nous avons entendu dès le commencement. Aux Juifs qui demandaient à Jésus « Qui es-tu ?», le Seigneur pouvait répondre « Absolument ce qu'aussi je vous dis. » Jean 8, verset 25. Ces paroles étaient l'expression parfaite de lui-même. Hélas, nous pouvons nous servir de mots pour cacher ce que nous sommes. Il s'est servi de paroles pour exprimer parfaitement ce qu'il était. Nous avons entendu sa voix et nous connaissons la vérité le concernant. Nous avons sans doute beaucoup à apprendre des gloires de sa personne, mais nous savons qui il est. Toute prétention du modernisme ou de quelque autre faux enseignement qui nous donnerait plus de lumière quant à sa personne est la négation du fait que la pleine vérité était dès le commencement. Si ce que nous avons entendu dès le commencement demeure en nous, si cela gouverne nos affections, nous demeurerons dans la vérité du Fils et du Père. Les brebis connaissent la voix du bon berger et sont ainsi à même de détecter les nombreuses voies trompeuses des étrangers, comme nous lisons, elles ne suivront point un étranger, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Quatrièmement, nous avons la vie éternelle selon la promesse. Cette vie nous met en relation avec les personnes divines. Les paroles du Seigneur sont « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, verset 3. Il est par conséquent évident que ces faux docteurs sont manifestés comme n'étant pas des nôtres, pas de la compagnie chrétienne, verset 19. Ils n'ont pas l'esprit, verset 20. Ils ne connaissent pas la vérité, verset 21. Ils nient le Père et le Fils, verset 22. Ils ne demeurent pas dans ce qui était dès le commencement, verset 24. Et ils ne possèdent pas la vie éternelle, verset 25. Les petits-enfants en Christ peuvent échapper à leurs faux enseignements parce qu'ils ont l'esprit, la vérité, la connaissance du Père et du Fils, qu'ils demeurent dans ce qu'ils ont entendu dès le commencement en Christ et qu'ils possèdent la vie éternelle par laquelle ils peuvent jouir de la communion avec le Père et le Fils. Versets 26 et 27. Citation de l'Écriture. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toute chose, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Fin de citation. Voilà donc ce que l'apôtre écrit pour dénoncer ceux qui voudraient nous égarer et pour nous mettre en garde. En outre, nous avons non seulement la parole écrite, mais aussi le Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre la parole et pour éprouver les enseignements des hommes. Les docteurs passent, mais le Saint-Esprit demeure. L'enseignement des docteurs les plus excellents peuvent être incomplets, mais le Saint-Esprit nous enseigne à l'égard de toute chose. L'enseignement des docteurs les plus excellents peuvent être parfois mélangés d'imperfections, mais l'enseignement du Saint-Esprit est vrai et il n'est pas mensonge. Le but de tous les faux docteurs est de séduire les saints pour qu'ils abandonnent la vérité. L'effet de l'enseignement du Saint-Esprit est d'amener les saints à demeurer dans la vérité telle qu'elle a été présentée en Christ dès le commencement. Les versets 28 et 29 seront vus avec le chapitre 3.